Pour introduire la discussion, je laisse la parole à Jean-Pierre Mercier.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être venu pour participer à cette réunion. Ce que je vous propose, c'est de dire quelques mots sur la situation générale du monde du travail, des travailleurs. Et puis après, si vous voulez, on pourra passer au débat, à discuter entre nous de nos affaires qui nous concernent. Alors, vous avez... on voit Emmanuel Macron sur tous les médias avec sa mascarade de grand débat national qui sature les médias. Vous avez vu, quand il fait une réunion, c'est en boucle sur les chaînes d'infos. On a ça d'un côté. Et puis on a le mouvement des Gilets jaunes qui, peut-être depuis un certain temps, marque le pas. Mais il n'empêche que, encore aujourd'hui, j'ai pas connaissance du chiffre, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de manifestants encore en France qui ont tenu à exprimer leur colère par rapport à la politique du gouvernement, entre autres. Et sans doute que le pouvoir, que Macron, il pense avoir éteint l'incendie social de cette mobilisation des Gilets jaunes. Cette mobilisation des Gilets jaunes, elle a posé les bonnes questions. On l'a dit depuis le début, elle a posé... la question de vivre dignement de son salaire, de vivre dignement de sa pension de retraite, de son travail, qu'on n'est pas des demandeurs d'assistanat, mais qu'on veut vivre dignement de notre salaire et de notre boulot, de notre travail. Il faut avoir conscience que de toutes les revendications sur le pouvoir d'achat des Gilets jaunes, mais même y compris... Sur la justice fiscale que réclament les Gilets jaunes, Emmanuel Macron ne donnera aucune réponse. Aucune réponse. Pourquoi ? Parce que pour augmenter les salaires, pour augmenter les pensions de retraite ou pour augmenter les allocations, il faut taper dans les profits des grandes entreprises, dans les dizaines de milliards qui sont créés chaque année en France. Et ça, Macron ne voudra jamais le faire. Il ne voudra jamais le faire parce qu'il est de leur côté. Parce qu'ils s'y refusent. Simplement, d'entrée de jeu, avant l'organisation du grand débat, il avait déjà affirmé que la feuille de route du gouvernement serait strictement la même et qu'elle ne changerait pas de cap, là, d'une part. Et puis si on prend simplement l'impôt sur la grande fortune, qui est symbolique pour les riches, qui n'est pas forcément symbolique pour nous, mais qui est symbolique pour les riches, les 3-4 milliards d'ISF, il a d'entrée de jeu annoncé qu'il ne le remettrait pas. Donc autant vous dire qu'augmenter les salaires, augmenter les pensions de retraite, ça de toute façon, il va s'y refuser. Pourtant, l'argent existe. L'argent en France existe. Les milliards, les dizaines de milliards existent. La France, c'est un des pays les plus riches du monde, un des pays les plus développés au monde. Et il y aurait de quoi extrêmement rapidement augmenter les salaires, augmenter les pensions de retraite, augmenter les allocations. Il y aurait de quoi diminuer le chômage en embauchant dans les services publics. Il y aurait de quoi développer la santé, développer l'éducation nationale. Il y aurait de quoi donner un logement décent à chacun d'entre nous. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on vit dans une société où justement ces dizaines, ces centaines de milliards sont bloqués. Bloqués parce qu'on est dirigé par une classe sociale, les grands capitalistes, la bourgeoisie, qui aspire littéralement toutes les richesses que l'on produit dans ce pays. Et le problème, il est là. C'est que la bourgeoisie, ces grands capitalistes, hein, c'est la famille Peugeot, la famille Mullier, les Bolloré, les Dassault, les Bettencourt, ces milliardaires, de toute façon, ne sont absolument pas disposés à faire de cadeaux ou à partager quoi que ce soit. D'abord, ils n'ont jamais, par principe, ils ne partagent jamais. Mais là, non seulement ils ne partagent pas, ils ne sont pas prêts à faire de cadeaux, mais ils sont comme un rouleau compresseur sur l'ensemble de la société. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une crise économique où la société n'arrête pas de s'enfoncer dedans, n'arrête pas de... tout est en train de partir en vrille, où il y a le chômage qui augmente de plus en plus, les salaires sont toujours bloqués, les services publics se dégradent, et on est dans une situation de crise économique qui est de plus en plus importante, qui fait que même y compris pour les patrons, pour le patronat, pour les actionnaires des grandes entreprises, ils n'ont pas 36 solutions pour continuer à faire du profit et continuer à faire des bénéfices. Ils ont deux leviers essentiellement sur lesquels ils peuvent jouer. C'est d'abord se faire la guerre entre eux. C'est ce qu'on appelle la guerre commerciale. Alors en France, c'est y compris, si je prends l'automobile, Renault qui fait la guerre à Peugeot, mais dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs économiques, les patrons se font la guerre entre eux. Ils essayent de se voler des parts de marché, de tuer leurs concurrents pour pouvoir faire encore plus de bénéfices. Ça, c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'échelle internationale. On voit aujourd'hui les États-Unis qui font la guerre commerciale à la Chine, qui font la guerre commerciale à l'Europe, et nous, là-dedans, pris en étau. Parce qu'autant qu'on se le dise, quand ils font la guerre commerciale au nom de la compétitivité, c'est sur notre dos, c'est avec notre peau qu'ils la font, cette guerre. C'est en fermant des usines, c'est en bloquant les salaires, c'est en diminuant nos droits collectifs, c'est en supprimant des emplois, c'est faire en sorte que dans chaque usine, dans chaque entreprise, on soit moins nombreux à produire plus, en étant payé encore moins. C'est en pillant les caisses de l'État, c'est en pillant l'argent public, l'argent de nos impôts. Et ça, c'est un des leviers sur lequel les patrons utilisent pour faire encore plus de, pour faire encore plus de profit. Et puis, il y a ce deuxième levier qui est extrêmement dangereux pour l'ensemble de la société, c'est quand vous avez, quand vous êtes un capitaliste, quand vous avez du capital, c'est pas quand vous avez 5000 euros sur votre livret, hein, c'est pas ça, mais quand vous avez vraiment des dizaines de millions dans votre poche, à votre portée, qui vous appartiennent, il est beaucoup plus facile de faire de l'argent avec de l'argent, c'est-à-dire de spéculer en bourse, de s'acheter des parts d'entreprise, de les revendre, de tuer un concurrent, de tuer un repreneur, de jouer avec la finance dans ce grand casino mondial. C'est beaucoup plus rentable de faire des bénéfices en spéculant en bourse plutôt que de l'investir dans l'emploi, de l'investir en créant des entreprises, en créant de l'emploi, etc. Et on est aujourd'hui dans une situation où on est pratiquement au bord du gouffre. C'est pas nous qui le disons, c'est très souvent, on voit dans les journaux économiques, les journaux patronaux, où il y a des signaux d'alarme qui sonnent, où on est à deux doigts de plonger dans une nouvelle crise boursière, dans un nouveau krach boursier. On l'a connu en 2008, il y a 10 ans. Et là, ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale, c'est même pire. Parce que rien n'a été fait pour stopper, parce que d'une part, rien n'est possible de faire. Enfin, s'il y a des choses qui sont possibles. En tout cas, on est dans une situation extrêmement dangereuse où, à chaque instant, on peut très bien plonger dans un krach boursier. Et quand on dit plonger, c'est la société tout entière qui est plongée. Alors, la conséquence directe de toutes ces politiques anti-ouvrières, d'attaque contre le monde du travail, ça a été en quelque sorte la réaction des Gilets jaunes. La réaction des Gilets jaunes, c'est une des conséquences de la vie que nous font mener les patrons, nous font mener les différents gouvernements. Et cette colère, elle est salutaire et elle est légitime. Parce que c'est, ça confirme notre conviction principale, c'est que le changement ne peut venir que par le bas. C'est que l'action collective, elle est là, la solution pour nous sortir de nos problèmes auxquels on est confronté. Alors, la situation, elle est telle que aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, il a ce côté positif, c'est que l'on avait en face de nous Emmanuel Macron. Vous vous souvenez peut-être, mais on a fait pas mal de manifestations contre la loi travail. Il a pas reculé. Il y a eu la grève des cheminots avant l'été. Il a pas reculé. Et on avait autour de nous pas mal de camarades de travail, de voisins, même dans la famille, qui se disaient « Bon, ben Macron, il reculera jamais, il est trop fort. » C'est quelqu'un qui ne reculera pas, il s'est pris il s'est fait une réputation qui ne reculera jamais devant la rue, etc., jamais devant les manifestations. Et puis, il y a ce mouvement des Gilets jaunes qui a ce côté très positif. Il y a plein d'autres côtés qui sont pas forcément positifs, qui sont peut-être négatifs, on aura l'occasion d'en parler dans le débat si vous voulez, mais il y a ce côté positif où c'est l'action collective, c'est le changement qui vient par le bas. Alors il a reculé peut-être pas suffisamment, ça c'est certain, mais ça a été le fruit du rapport de force que les Gilets jaunes, ils ont réussi à imposer face à Emmanuel Macron. Et ça, nous, c'est une idée qu'on défend tout le temps autour de nous, y compris quand nos camarades de travail, ils n'ont pas envie de se battre, parce qu'ils pensent que c'est perdu d'avance. Bon, bah nous, on défend toujours cette idée-là, que c'est l'action collective, c'est la mobilisation collective de dizaines de milliers de personnes qui peut ouvrir la porte à un succès, à une victoire, à faire en sorte que le camp d'en face y recule. Alors, des mobilisations, il y en aura. Il y en aura d'autres, bien d'autres. Parce que justement, on est dans une situation où en face, ils n'ont pas d'autre choix, pas d'autre politique, que ce soit du côté du gouvernement ou du côté du grand patronat, ils n'ont pas d'autre choix que de toute façon nous serrer au niveau des salaires, nous serrer au niveau de l'emploi et nous exploiter encore plus et de réduire encore plus les services publics. C'est-à-dire les services qui sont utiles à notre quotidien quand on n'est pas riche, quand on n'est pas milliardaire. Donc des mobilisations, il va y en avoir plein. Il va y en avoir d'autres. C'est pour nous une conviction, une évidence. Nous, on mise sur la classe ouvrière. On mise sur les travailleurs. On mise sur les futures mobilisations des travailleurs. Alors pourquoi on a cette obsession à Lutte ouvrière de miser sur les travailleurs, sur la classe ouvrière? Parce que on est communiste et parce que on est convaincu que les travailleurs, c'est eux qui font fonctionner la société. C'est eux qui sont à la base des richesses, de la création des richesses. Sans les travailleurs, sans le travail des salariés, il n'y a absolument rien du tout qui fonctionne. Le poumon dans un pays sont les entreprises. Ce qui donne l'oxygène à un pays, c'est les entreprises. Enfin, plus exactement, c'est le travail des salariés qui génère les richesses, qui fabriquent des voitures, mais pas que, qui conduisent les trains, qui soignent les patients, qui éduquent les gamins. Qui... Voilà, c'est ça le poumon qui fait l'oxygène d'un pays. Et les travailleurs, ils sont au cœur du système. Ils sont vraiment au cœur de la bête, si je peux parler comme ça. C'est eux qui font absolument tout fonctionner. Alors, ils ont en face d'eux, quand on travaille dans les grandes entreprises, mais pas forcément les grandes entreprises, y compris les PME, on a en face de nous ce grand patronat, ces capitalistes, ces actionnaires de ces grandes entreprises, où on a ce sentiment, encore actuellement, où ces murs de l'argent, où ils sont invincibles, où ils sont trop forts, où on ne pourra pas les faire reculer parce qu'ils possèdent des capitaux, parce qu'ils possèdent l'entreprise, parce qu'ils possèdent tout. Il y a quand même un talon d'Achille dans ce système. Ce talon d'Achille, le talon d'Achille des capitalistes, le talon d'Achille du grand patronat, c'est nous. C'est nous tous. C'est les travailleurs. Justement parce que sans nous, ils ne représentent absolument plus rien du tout. Ils n'ont plus ce pouvoir. Ils n'ont plus cette capacité de nuisance. C'est nous qui les faisons vivre. C'est nous qui sommes à la base de la production des richesses. C'est nous qui sommes à la base de la centaine de milliards de bénéfices des entreprises du CAC 40, si on prend simplement ces entreprises-là. Sans nous, ils sont absolument rien du tout. Et on a un peu l'habitude de dire que par rapport au mouvement des Gilets jaunes qui occupe les ronds-points, c'est bien, il y a un esprit de contestation, il y a de la mobilisation, mais... le grand patronat, il n'est pas inquiété par l'occupation des ronds-points. Le grand patronat, il ne pourra être inquiété que s'il y a ces usines qui sont occupées. Si ces places fortes, que sont les grandes entreprises, que sont même les entreprises tout court, elles sont occupées par les travailleurs, et que là, on a cette capacité d'imposer un rapport de force, de créer un rapport de force pour imposer nos conditions et imposer nos intérêts. Parce qu'on a des intérêts en tant que travailleurs, dans cette société, face à nos patrons. Et ça, à Lutte ouvrière, on essaye de les populariser, ces intérêts, on essaye de faire en sorte que les travailleurs, ils en soient conscients, qu'en tant que travailleurs, on a des intérêts bien spécifiques, des intérêts vitaux à défendre si on veut pas, si on veut pas crever et si on veut arrêter de continuer à subir la politique de nos patrons. Alors c'est sur l'emploi, c'est l'interdiction des licenciements, c'est sur le... Je vais faire vite là-dessus, on pourra en discuter si vous voulez. C'est par rapport au pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires et des retraites, bien sûr. Et c'est aussi imposé que nos salaires et nos retraites augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Juste, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a aujourd'hui, si on en discutait tout à l'heure avec des camarades, le prix de l'essence, il est redevenu, il est remonté au démarrage du mouvement des Gilets jaunes. Bon, c'est pas étonnant en soi. Macron, il a simplement promis de geler l'augmentation de la taxe. Il n'a pas promis de geler le prix. Le prix, c'est Total qui le fixe. Il n'a pas promis de geler les bénéfices de Total. Aujourd'hui, le prix augmente, L'argent ne va pas dans les caisses de l'État sous la forme de taxes, il va directement dans la caisse de Total. C'est un multimilliardaire. Bon. Mais on a donc des intérêts vitaux à défendre face à ces capitalistes, et on insiste à Lutte ouvrière sur le fait que c'est eux qui dirigent réellement la société. Dans le mouvement des Gilets jaunes, on entend souvent Macron démission. Bon, c'est un peu naturel et compréhensible que les Gilets jaunes s'attaquent à Macron, c'est le président de la République. C'est lui qui est responsable en partie de la politique anti-ouvrière que l'on subit depuis des années, depuis qu'il est au pouvoir en tout cas. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on entend aussi, et on le dit nous-mêmes, Macron c'est le président des riches. Quand on dit ça, c'est qu'on veut montrer que Macron, il est du côté des riches, il n'est pas de notre côté. Ça, c'est vrai. Mais entre nous, les riches, ils n'ont pas besoin de président. Les riches, ils se président eux-mêmes. Quand vous avez, je prends l'exemple de PSA qui fait 3 milliards de bénéfices, les 3 milliards de bénéfices, ils ne vont pas demander à Macron qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, les actionnaires. Ils se les gèrent eux-mêmes. Ils se gèrent eux-mêmes. Ils se président eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Ils font ce qu'ils veulent de leurs bénéfices et de leurs dividendes. Ils ont de comptes à rendre strictement à personne, ni aux députés, ni au gouvernement, ni évidemment à la population, ni même aux travailleurs. Par contre, les riches, ils ont besoin d'un serviteur. Et Macron, en ce sens-là, c'est le serviteur des riches. Oui, les riches, les milliardaires, ils ont besoin d'un homme à la tête de l'État qui serve ses intérêts, qui les défende, qui fasse des lois pour faire en sorte que l'exploitation, elle soit encore plus facile, que certains impôts, par exemple l'ISF, que celui-là soit supprimé, qu'ils en payent moins d'impôts. Voilà. Ils ont besoin d'un serviteur qui puisse développer une politique publique pour défendre les intérêts, défendre leurs intérêts. Et c'est là où, quand on entend certains partis politiques parler de macronisme ou de macronie, vous savez, vous aurez entendu ça souvent, on entend parler, oui, ça c'est le macronisme, c'est Macron, il faut dégager Macron. Bon, si on dégage, ça, on nous a fait le coup avec Sarkozy. Vous vous souvenez, c'était le sarkozisme, Sarkoland. Et Sarkozy était tellement haï, sa politique était tellement vomie, que de toute façon, on nous disait, les partis de gauche nous disaient, on ne peut pas trouver pire que Sarkozy. Voilà. On a eu Hollande. Hollande, vous vous souvenez, on en a pris plein la tête. C'est pas si vieux que ça, même si le temps file vite. Hollande, c'était mon ennemi, c'est la finance. Vous vous souvenez, c'était tellement... son ennemi, la finance, que quand il est arrivé au pouvoir, il a pris Macron comme premier conseiller à l'Élysée. Bon, après, le petit bonhomme, il a fait son chemin, il est devenu président de la République. À la place de Macron, on pourrait mettre n'importe quel politicien, on aurait exactement la même politique. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça qu'on attaque, c'est qu'on attaque cette idée qu'il ne suffit pas de virer Macron. Il faut virer les capitalistes. Il faut dégager les capitalistes. C'est eux qui vraiment détiennent le pouvoir dans ce pays, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est pas Macron. Macron est simplement un serviteur zélé, essaye de bien faire son boulot vis-à-vis des riches. Il va peut-être se griller en 5 ans, mais pour les riches, c'est comme un fusible. Quand il est grillé, on le change, on en prend un autre, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, peu importe. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit, parce qu'on peut très facilement se faire avoir avec cette histoire de Macron, de dégager Macron. Quand on entend ça, moi quand j'entends ça, tout de suite je me dis, bon bah ça veut dire qu'on ne montre pas le véritable adversaire, le véritable ennemi, le véritable responsable. On ne montre pas les capitalistes. On n'attaque pas les capitalistes, on n'attaque pas la famille Peugeot, on n'attaque pas les Bettencourt, on n'attaque pas les Dassault, ceux qui ferment, qui prennent les décisions de fermer les usines et qui bloquent nos salaires. Qui donne que de la précarité aux jeunes et qui essaye de faire travailler les salariés le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'on ne les attaque pas, on les protège en quelque sorte. Ben ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Alors, pour le dénoncer, justement, il faut, ce qui manque dans ce pays, c'est un parti réellement, un parti ouvrier, communiste, qui défende non pas la perspective que pour changer les choses, il faudrait plus de lois, il faudrait voter, il faudrait poser des questions, des bonnes questions, et si on pose la bonne question, par exemple, il faudrait que les bénéfices des capitalistes soient partagés, même si on était à plus de 50% à répondre oui, c'est pas pour ça que les capitalistes vont être d'accord pour partager leurs bénéfices. Parce que la vie, ça, ça se passe pas comme ça. Les affaires se passent pas comme ça. Non, il faut un parti, justement, qui garde le cap, qui soit une boussole, qui montre le cap et qui défende les seules idées qui soient utiles pour le monde du travail, c'est les idées de la lutte de classe. C'est le fait qu'il y a deux camps dans cette société. Il y a les capitalistes, les exploiteurs, qui détiennent les rênes du pouvoir jusqu'à maintenant, et puis il y a nous autres, les travailleurs, les salariés, les chômeurs, les retraités, qu'on soit en CDI ou précaire ou en intérim, peu importe. Il y a deux camps dans cette société. Et simplement défendre ces idées de base, ces idées simples, qui sont perdues au fil des années, et ben ça c'est un vrai travail, et c'est nous en tout cas, un des objectifs qu'on s'est fixé, c'est de reconstruire un parti réellement ouvrier qui défende les intérêts vitaux du monde du travail, qui défendent cette idée fondamentale qu'on ne peut pas s'entendre avec un patron. C'est qu'un patron, avec un patron, c'est un rapport de force. C'est le résultat d'un rapport de force. Alors quand on l'a en notre faveur, on gagne. Quand on ne l'a pas en notre faveur, on ne gagne pas. C'est là où on perd. Mais il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. C'est de toute façon une lutte, parce que lui en face, par contre la lutte de classe, il l'amène. Et il en est extrêmement conscient. Alors, tout ça, c'est peut-être loin des préoccupations des travailleurs, c'est peut-être loin des préoccupations des gens qui sont autour de nous, mais là où on insiste, c'est que de toute façon, on est convaincus qu'on vit un tournant aujourd'hui. C'est que la crise économique est tellement énorme. On vit une époque tellement dangereuse au niveau de la finance, où les sommes extravagantes sont tellement jouées en bourse dans la spéculation, que de toute façon, on a en face de nous des patrons, des capitalistes, qui n'auront pas d'autre choix que de toute façon de faire un bras de fer, de mener le bras de fer contre nous. Ne serait-ce que d'obtenir des augmentations de salaire, il faudra qu'on remette en cause ce pouvoir de la bourgeoisie. On n'est plus dans la situation des années 50 ou des années 60, où on est dans une période d'expansion, où il y a peu de chômage, où les capitalistes pouvaient facilement, c'était au prix de luttes âpres, de bras de fer compliqués, difficiles, mais où ils étaient encore prêts à céder des augmentations de salaire, à céder la quatrième semaine de congés payés, à céder des conventions collectives, à céder des droits collectifs. Là, on n'est plus dans cette situation-là. On n'est plus dans cette situation-là. On est dans une situation où, pour qu'ils reculent, il faudra qu'on conteste leur pouvoir sur l'économie et sur le pays, sur l'organisation économique du pays. C'est là où les idées qu'on défend, elles sont seulement utiles, mais elles sont vitales pour le monde du travail. Si on doit défendre des idées, c'est ces idées de la lutte de classe. C'est de faire prendre conscience autour de nous que, de toute façon, pour pouvoir vivre dignement dans cette société, il faudra qu'on s'attaque à leur pouvoir. Il faudra qu'on remette en cause la propriété privée des entreprises. Il faudra qu'on remette en cause leur pouvoir économique dans les entreprises. Il faudra qu'on contrôle tout ce qui se passe dans les entreprises. Pour nous, c'est une conviction, parce que de toute façon, on n'aura pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix qui nous est offert dans cette société. Alors, c'est des idées qu'on défend quotidiennement. C'est des idées qu'on va défendre dans la campagne des européennes. La campagne à venir, là, la camarade le disait, Lutte ouvrière, on va présenter une liste qui sera conduite par Nathalie Arthaud. On va évidemment, dans cette campagne des européennes, afficher notre internationalisme, le fait que l'Europe des nations ou l'Europe actuelle, c'est pas la bonne Europe. C'est une Europe qui s'est construite contre les travailleurs, qui s'est construite pour les patrons, pour les riches, pour les capitalistes. Mais on ne veut surtout pas tomber dans ce piège qui est en train de nous être tendu, qui est de choisir entre est-ce qu'il faut sortir de l'Europe ou est-ce qu'il faut rester dans l'Europe. Vous savez, pendant des années, ils nous ont fait courir sur gauche et droite. C'était soi-disant pas la même chose. Bon. Alors vous avez maintenant des partis, de gauche comme de droite, qui sont pour rester dans l'Europe. Et vous avez des partis qui sont de gauche comme de droite, qui sont pour sortir de l'Europe. Quand on regarde simplement, on a un exemple là, sous les yeux, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ils sont en train d'essayer de sortir de l'Europe. Jusqu'à maintenant, les travailleurs anglais, ils payaient. La Grande-Bretagne était dans l'Europe, c'était les travailleurs qui payaient. la Grande-Bretagne va peut-être sortir de l'Europe, c'est les travailleurs qui vont payer. Ce n'est pas un patron anglais qui va payer cette sortie-là. Ça, on peut en être sûr. Et c'est vrai pour tous les pays. Qu'on reste dans l'Europe, c'est les travailleurs qui payent. Qu'on sorte de l'Europe, c'est les travailleurs qui payent. La solution, elle n'est pas là-dedans. La solution, elle est de contester le pouvoir de la bourgeoisie, le pouvoir des capitalistes. Il ne s'agit pas simplement de dénoncer l'Europe capitaliste. Il s'agit de s'attaquer au capital. Il s'agit d'abattre le capital. Alors, c'est des idées qu'on va défendre, mais surtout, je tiens à redire qu'on ne veut pas tomber dans ce piège-là. Dans ces élections, on va mener campagne sur le fait qu'il faut que les travailleurs, ils affirment le plus fortement possible, le plus clairement possible, qu'ils ont des intérêts à défendre dans cette société. Et qu'on soit dans l'Europe ou en dehors de l'Europe, de toute façon, en tant que travailleur, on n'aura pas d'autre choix que de les défendre, ces intérêts. Face à nos patrons bien français, nos capitalistes bien français. Aujourd'hui, je travaille à PSA, ils ont fait 3,3 milliards, ils ont annoncé la fermeture d'une usine près de Sochaux de 200 personnes. Ce n'est pas une décision de l'Europe, c'est une décision de la famille Peugeot. Parce que la famille Peugeot a payé un homme, Carlos Tavares, un PDG, je l'ai dit tout le temps parce que ça me plaît, il gagne 18 300 € par jour, samedi, dimanche compris, qui est payé pour faire fructifier la fortune de la famille. Et lui, pour faire fructifier la fortune de la famille, il faut fermer des usines, il faut supprimer des emplois, il faut bloquer les salaires, il faut sortir plus de voitures avec moins de personnes. Et ça, ce n'est pas l'Europe qui le décide, ce n'est pas l'Europe qui l'impose. Ça, c'est vraiment la volonté d'une famille bien française, bien capitaliste, qui vit en partie en France, pas que, ils ont quand même en Suisse et au Luxembourg. Mais c'est cette politique-là qu'il faut absolument dénoncer. Alors, on fait partie de ceux qui sommes convaincus que, de toute façon, un moment ou un autre, les travailleurs, ils vont relever la tête. Ils vont se mettre en bagarre. Il y a ce mouvement des Gilets jaunes, bon, qui est un mouvement populaire, qui a donné quand même de l'oxygène, en tout cas, bien plus que de l'oxygène, mais qui est un mouvement, en tout cas, de lutte, de contestation. Mais nous, on est convaincus qu'à un moment donné ou à un autre, la classe ouvrière, elle va relever la tête et puis elle va se mettre en bagarre. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra qu'on, nous, on y soit préparés pour justement que ça ne perde pas. Que ça ne perde pas. Qu'on gagne, qu'on les fasse reculer. Et pour ça, il faudra qu'on soit clair sur nos revendications, clair sur nos intérêts à défendre et clair sur le fait que ce n'est pas forcément contre un politicien qu'il faut se défendre. Et qu'il faudra qu'on s'attaque aux vrais responsables que sont les capitalistes. Et ça, quand vous voyez, on va pouvoir en parler du mouvement des Gilets jaunes, sur quoi ça a démarré et comment ça s'est enclenché, comment ça s'est développé, et ben c'est là où nous, en tout cas, on ne perd pas confiance dans la capacité de bagarre, de lutte de la classe ouvrière. On est convaincu qu'à un moment donné ou un autre, ça va péter et ça va exploser. Et pour que ça... Quand ça explosera, c'est là où il ne faudra pas se planter. C'est là où il faudra mener notre barre. Il faudra qu'on trouve notre chemin pour les faire reculer, pour qu'on marque des points et puis pour qu'on arrête de subir. Voilà en gros ce que je voulais dire.